Nous allons lire deux textes pour le départ, pour la base de la prédication de Rogier. Je commence par un premier texte dans Matthieu 12, les versets 38 à 41. C'est justement ce que j'évoquais tout à l'heure dans la louange, j'en ai déjà parlé. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens intervinrent en disant: Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. Il leur répondit: Ces gens de notre temps, qui sont mauvais et infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux, un signe. Il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car eux, ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas.
Je lis dans le psaume 74. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu sans cesse? Pourquoi ta colère fume-t-elle contre le troupeau que tu fais paître? Souviens-toi de ta communauté. Au temps jadis, tu l'as acquise. Tu as assuré sa rédemption. Elle est ta tribu, ton patrimoine. Souviens-toi du mont Sion où tu as fait ta demeure. Porte tes pas vers tes ruines éternelles. L'ennemi a tout saccagé dans ton sanctuaire. Tes adversaires ont rugi dans le lieu même où l'on te rencontrait. Ils y ont placé pour signe leur enseigne. On les a reconnus, pareil à celui qui lève la hache sur les arbres touffus. Et maintenant, ils ont brisé toutes les sépulcures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont profané à terre la demeure de ton nom. Ils se disaient, exterminons-les. Ils ont brûlé le pays tout lieu. Ils ont brûlé dans le pays tout lieu où l'on rencontrait Dieu. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'adversaire se répandra-t-il en outrage? L'ennemi bafouera-t-il sans cesse ton nom?
Je vais encore prier pour Roger, pour nous aussi. Seigneur, pour ce rendez-vous, nous avons à cœur de te louer, mais nous avons aussi à cœur de recevoir de toi, que tu nous enseignes, que tu nous fasses avancer individuellement et en tant que communauté. Alors que tu bénisses Roger dans ce qu'il nous apporte, que tu l'inspires, et que tu ouvres aussi nos cœurs, nos oreilles, nos cœurs, recevoir ta parole et à la mettre en pratique, à la porter dans nos vies autour de nous. Amen. Amen.
Des signes. Si vous avez le psaume 74 ouvert devant vous, vous avez vu au verset 4 et puis au verset 9, nous ne voyons plus nos signes. Et c'est leur enseigne qui ont remplacé nos signes. Des signes. J'aimerais vous suggérer ce matin que il y a un adversaire qui cherche à brouiller les pistes, verset 4, et puis nous avons un Seigneur qui pose des signes. On a tous tendance, il me semble, à ne pas tellement voir ce que nous avons jusqu'à ce qu'on ne l'a plus. Je me rappelle, j'avais passé 6 mois en Israël sur un kibboutz je n'étais pas chrétien à l'époque, c'était tout simplement pour visiter un pays. Mais quand je suis rentré en Angleterre, j'étais frappé pour la première fois de ma vie de la verdure des paysages de l'Angleterre. Vous allez me dire c'est l'arrosage automatique qui fait cela, mais jusque-là, j'avais jamais remarqué. Et puis les cloches qui sonnaient. C'était vraiment un plaisir, j'avais jamais fait attention consciemment le dimanche matin, mais sur le kibbutz, le dimanche, c'était un jour comme un autre, on travaillait, et voilà combien j'appréciais tout d'un coup ces bruits pourtant si familiers. Certains aujourd'hui ont imaginé la Suisse avec un paysage radicalement changé. On a voté à ce sujet sans doute. Des signes, la Bible en parle et la Bible en parle beaucoup. C'est quelque chose de visible, nous savons ce que c'est, mais quelque chose de visible qui communique un message clair. C'est peut-être un événement passé comme l'arc-en-ciel qui rappelle une promesse donnée. Ou c'est peut-être l'annonce d'un événement à venir. Une vierge enceinte. Et puis, il y a ces signes et ces prodiges que les pharisiens voulaient voir. Et le Seigneur Jésus a dit, non, il n'y aura pas d'autre signe que celui de Jonas. 3 jours et 3 nuits dans le vent pour chacun. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Ce ne sont pas des paroles, mais combien ça parle pour autant. Mais il y a un adversaire qui aime brouiller les pistes. Tes adversaires, verset 4, ont rugi. Dans le lieu même où l'on te rencontrait, ils y ont placé pour signe leurs enseignes. Et le verset 10, jusqu'à quand, ô Dieu, l'adversaire se répandra-t-il en outrage? Nous ne voyons plus nos signes. Pourtant, les signes visibles ont accompagné le peuple de Dieu tout au long de leur parcours, depuis la traversée de la mer Rouge, la nuée, la colonne de feu, la tente posée au milieu d'eux, signe de la présence de Dieu qui les accompagnait. Et maintenant, une fois dans le pays, il y a là-haut où il y avait, parce qu'il n'y a plus, il y a le temple de Jérusalem. Dieu s'est installé au milieu d'eux. Et au temple, dans le lieu saint, il y avait les rappels, le signe de la provision de Dieu pendant 40 ans de la manne. Le serpent d'airain qui était posé, là aussi, signe qu'il faut élever le regard pour vivre la délivrance de Dieu. L'étape de la loi qui rappelait que le peuple de Dieu avait aussi leur responsabilité. Et puis, leur année était ponctuée de fêtes. La Pâque, l'agneau immolé. La Pentecôte, signe anniversaire de délivrance opérée ou des délivrances à venir. La fête des trompettes. Tiens, au son de la trompette de Dieu, il y a un événement que nous attendons toujours, des signes. Et voilà que le psalmiste se lamente, nous ne voyons plus nos signes. Et encore pire, ils ont remplacé nos signes avec leurs enseignes. Mais il faut dire qu'avant d'arriver là, le peuple de Dieu avait glissé dans une grande indifférence. Ces sabbats, quelle fatigue! Ces offrandes toujours à répéter, mais quelle charge! Et voilà qui se trouve sous l'emprise des maîtres durs, envoyés par un adversaire. Les lieux de rencontre ont été délaissés, et les voilà, verset 8, maintenant détruits. Ils ont brûlé dans le pays tout lieu où l'on rencontrait Dieu. Pourtant, Dieu leur avait tendu la main tous les jours. Tous les jours, il a envoyé ses prophètes. Ils ont maltraité les uns, lapidé les autres. Et maintenant, plus de voix qui leur disent jusqu'à quand. Pourquoi, Seigneur? Seigneur, viens regarder l'état de ton pays. L'abandon des lieux de culte. Nous ne voyons plus nos signes. Depuis 1990, à Londres, 400 églises remplacées par des mosquées. Et si vous lisez Christianisme aujourd'hui, vous avez lu qu'il y a déjà 85 tribunaux islamiques basés sur la charia en Angleterre, aujourd'hui. L'adversaire brouille les pistes. Et pourtant, des signes clairs ont été posés. Parce que nous avons un Seigneur qui pose des signes. Est-ce que le psalmiste a raison de se décourager si vite. Et j'imagine le Seigneur lui dire, comme il a dit à Jonas, « Fais-tu bien, Asaph, de baisser les bras ?» Parce que moi, le Seigneur, je sais délivrer ceux qui s'attendent à moi. Rappelle-toi de l'arche de Noé. Il y a eu des lieux de refuge et il y en aura encore. Rappelle-toi que tu es enfant de l'Alliance, tu portes même la marque dans ta chair. Et même mes promesses, Asaph, je veille à leur accomplissement. N'oublie pas que si j'ai pas voulu qu'Abraham sacrifie son fils, son unique, moi, j'ai promis que sur la même montagne, j'ai pourvoir moi-même au sacrifice de mon fils, de mon unique. Souviens-toi du signe de l'agneau offert en sacrifice sur chaque foyer. L'agneau qui s'offrira au même lieu. Souviens-toi du signe de Jonas. Ça va pas finir comme tu penses. Il y aura un lendemain. Lève ta tête, Asaph, regarde plus loin. J'avais des amis qui faisaient des courses d'orientation. Et c'était une rencontre régionale. Ça se passait au centre de l'Angleterre. Et voilà qu'un d'entre eux devait travailler et m'a proposé de le remplacer. Je faisais les courses à pied, mais les courses d'orientation, je ne connaissais pas beaucoup. Et comment ça se passe? On reçoit une carte avec des repères qu'il faut trouver et puis il faut tamponner une fois qu'on les a retrouvés et on continue. Et ce jour-là, les meilleurs faisaient le parcours dans environ 40 minutes. Et moi, au nom de cet ami, et c'était publié dans le journal par la suite, j'ai pris un peu plus que 4 heures. Et pourquoi? Pourtant, je savais courir, mais j'ai foncé la tête baissée, sans réfléchir, sans observer, sans regarder les signes. Et c'est une recette idéale, je peux vous le dire, pour tourner en rond. Nous avons un Dieu poseur de signes. La création. Les cieux racontent. C'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles. Et pourtant, ça parle de la grandeur du Dieu créateur. Vous êtes signe de par votre présence. Vous démarrez la semaine avec un jour de repos. Tout est accompli et cette semaine encore, nous entrerons dans les œuvres préparées d'avance pour nous. Ainsi, nous vivons ce repos de sabbat qui est réservé pour le peuple de Dieu. Tout à l'heure, nous allons vivre et reposer un signe. De la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pas quand c'est la dernière fois que vous avez été à un mariage. Voilà un signe. La fiancée qui arrive sur le bras de son père et qui est présentée au fiancé. Une parole donnée publiquement devant Dieu et devant les autorités compétentes. L'agneau d'une alliance, symbole d'amour et de fidélité éternelle. Un nouveau nom inscrit dans un livre. Et voilà, tout est clarté et pureté, un signe à maintenir, on doit le dire si vous regardez dans 2 Corinthiens 11, 2, un signe qui a tout son sens. Noël, signe du don de Dieu. Il y a un adversaire, brouilleur de pistes, il y a un seigneur, poseur de signes. Voilà donc que vous êtes signe. Signe comme notre Seigneur, non pas d'opposition constante, non à tout, mais d'alternative attractive. Jésus et le sabbat. Mais le sabbat est fait pour l'homme. Jésus à la fête de Cana. Jésus avec les enfants, signe de joie, d'accueil. Et l'Église, Joël l'a dit en introduction, signe de l'unité du peuple de Dieu. C'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. Et voilà qu'il y a un ennemi qui cherche à brouiller les pistes, à pousser vers l'individualisme, la rupture dans les relations, la méfiance mutuelle. Et non, nous sommes un seul corps, une famille, signe de la présence du Seigneur, signe de la réconciliation. On avait parlé de Jacob avec son GPS guidé par le Seigneur qui devait rencontrer Ésaü pour continuer la route avec Dieu. Signe du pardon reçu et accordé. Nous sommes signe d'accueil, je l'ai dit. Signe de patience, d'une attente dans les promesses du Dieu qui se réaliseront. Signe de confiance. Tout à l'heure, à l'offrande, le premier jour de la semaine, on met à part ce qu'on a décidé dans son cœur de donner au Seigneur. On lui fait confiance pour la suite de la semaine, pour le reste du mois. Signe. Signe de persévérance, comme Job l'était sans le savoir. Ils y ont placé pour signe leur enseigne, et nous ne voyons plus nos signes, se lamentait le psalmiste. Un ennemi, un adversaire, avait brouillé les pistes pour un peuple qui avait laissé tomber ses repères. Ils avaient méprisé l'héritage reçu des générations qui précédaient. Ça peut nous rappeler quelque chose, nous qui habitons en Occident. Et ils se plaignaient, nous ne voyons plus nos signes. Il y avait de quoi, mais ce n'était pas tout. Parce que dans le brouillard, pas besoin de tourner en rond. Des signes clairs, il y en a et il y en aura toujours. Le Seigneur a veillé à poser des poteaux indicateurs dans sa parole et dans sa création pour chacun qui désire voir clair. Des poteaux qui indiquent le chemin. Mais quels sont ces signes aujourd'hui? Alors on a parlé des signes courants, mais le signe le plus parlant, qui parle beaucoup plus fort que tout minaret, c'est votre vie, c'est ma vie transformée et vécue dans la puissance de l'Esprit. Personne dans notre entourage ne devait dire « Nous ne voyons plus nos signes, parce que c'est nous, aujourd'hui, signe de la présence de Dieu. » Amen.
Même si je ne marche pas à l'aide d'une canne, je me permets de vous proposer un petit slam. Pour vous raconter l'histoire de Mister Urban, un gars qui ferait bien de surveiller son âme. Il peut être aussi exemplaire qu'un homme en soutane, puis rapidement se transformer en kleptomane. C'est aussi lui qui va aider à traverser la petite Floriane, juste avant de se fumer un bon joint de marijuana. Au groupe de jeunes, pour parler de Dieu, il ouvrira les vannes. Mais au cours ou au boulot à ce sujet, il tombe en panne et se transforme en mythomane. Par peur de perdre quelques fans. Le dimanche matin, ce jeune adulte se rend au culte tel un inculte, oubliant que la veille, il était dans le tumulte d'une soirée quasi occulte. Malheureusement, Mister Urban refuse que Dieu l'ausculte. Chaque jour, notre bonhomme choisit d'aider quelqu'un au bol. Et le dimanche, il remplit la collecte avec toutes ses oboles. Sympa, mais pour notre guignol, c'est aussi avec alcool que la fête est plus folle. Se prend des cuites, il raffole. Avec les filles, il batifole. Et au volant de sa bagnole, il fait le mariole. Y a pas besoin d'être trop balèze pour capter que Mister Urban a le derche entre deux chaises. C'est la dèche, et ne lui en déplaise, y a un malaise. Notre homme se trouve au bord de la falaise. Cet énergumène sait que quelque chose le freine. En manque de kérosène, il est partagé entre être la star de la reine et dire amen à la Sainte Seine. Il est tout simplement devenu schizophrène. Sa personnalité se retrouve divisée. Le chrétien et le païen sont tous deux alités à l'idée de faire face à cette dualité. Mister Urban est tiraillé dans cette société. Mais qu'en est-il de notre côté? Aujourd'hui, on n'appartient plus à une seule caste. On nous encourage à retourner notre veste. Face à nous, le choix est vaste. Mais soyons prudents, car entretenir les contrastes peut nous être néfaste. Dans une société qui n'a pas la fausseté d'une émission de télé-réalité, apprenons à découvrir et accepter notre personnalité. Prenons nos responsabilités et développons notre mentalité en évitant la dualité. Notre foi ne dépend pas d'un lieu. On a le droit d'avoir un cœur un peu plus vieux, même quand on est dans la maison de Dieu. Pas besoin de jouer le faux pieux en se forçant de sourire à tous les petits vieux. Et qu'on arrête de nous dire qu'on peut pas faire la fête. Ne soyons juste pas bêtes. Pas besoin de se péter la tête et se gaver de cigarettes. On peut s'éclater en étant net et croyez-moi, je suis plus prophète que prophète. Allez, finissons-en avec nos frasques. Nous ne serons pas pour autant flasques. Il est temps d'assumer et d'ôter nos masques. Allons de l'avant en se rappelant que par son salut, Dieu nous équipe d'un solide casque. Il y en a assez de se défiler. Laissons-nous défier. Crois-moi, en Dieu, tu peux te fier. Si tu décides de l'adopter, il va t'aider à t'adapter. Si tu acceptes de le chercher, il t'apprend à te lâcher sans le fâcher. Et va se dépêcher d'effacer tes péchés. Peut-être même te motiver à prêcher. Profite que la Bible te soit accessible pour qu'elle t'aide à atteindre ta cible, à rester crédible. Et donne à chacun la preuve tangible que cool et chrétien ne sont aujourd'hui pas incompatibles. Qu'avec toi, Dieu soit toujours dans le coin. Que tu en parles à tes amis ou ton conjoint. Au cours, en soirée, au sport, c'est pas parce que de l'église t'es loin que t'es moins un témoin. Et juste avant de finir, j'ai envie de dire que le pire, c'est de se mentir. Alors je te conseille de réfléchir et de choisir ce que tu désires. Si t'as envie que du bon côté ta vie vire, alors n'hésite plus et monte dans le navire. Dieu t'y accueillera tout sourire. Et ça... ça déchire.